France Culture.
Loubar inoffensif, zonard à la rue, rockeur de pacotille, babas affligeants, bikers du dimanche, vieillards franchouillards et autres hurluberlus attendrissants, c'est une faune rigolarde qui s'est invitée dans les pages de ce livre pour une fiesta de tous les diables. Samuel Guilleran. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. C'est parmi cette faune rigolarde et attachante, témoin d'une époque belle et bien révolue, que va s'immerger ce soir Mauvais Genre, qui vous confie à découvrir en son intimité le monde et l'antre magique du grand Franck Margerin, l'Albert Dubout des âges électriques. Franck Margerin, à qui un livre d'entretien signé Samuel Guilleran vient d'être consacré aux éditions Mediapop, le père de Lucien, mais pas que, et de Ricky Banlieue, mais pas seulement, nous a en effet reçu au milieu de ses six cordes, de sa collection universelle de Flitox et de ses milliers d'objets chinés et choyés. Chronique en second temps d'émission, signé Sixtine Audebert et Antoine Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre aujourd'hui consacré quasi en totalité à Franck Margerin. Bonsoir Sixtine Audebert.
Bonsoir Charles.
Vous
François.
Êtes une lectrice de Franck Margerin.
J'étais lectrice sur le tard, puisque je l'ai connue par l'étude de Métal Hurlant. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs filtres, dont le filtre universitaire qui passe par
débuts.
Là. Mais effectivement, j'ai dépouillé beaucoup de numéros pour une conférence sur le lien entre rock et BD précisément, j'ai inévitablement appris à connaître l'œuvre de Franck Margerin.
Eh bien là, vous avez pu le rencontrer. On va vous entendre de même qu'on entend Antoine Guillaume. Bonsoir.
Bonsoir François.
Antoine Guillaume, lecteur de Franck Margerin. Exégète.
Grandi avec Franck Margerin, un grand inventeur de forme, l'inventeur de la banane.
L'inventeur de la banane.
La banane métallique qui a été déclinée depuis. Et puis de toute façon, si vous avez été vivant dans les années 80, vous n'avez pas pu échapper à Franck Margerin qui à l'époque était partout. Dans Métal Hurlant en particulier, mais même dans l'espace public et institutionnel, il a margerinisé les années 80 de manière radicale.
Absolument. J'étais même un peu vivant avant, mais ça c'est grand. Qui veut ça. Vous étiez un colloque sur la cinéphilie, Antoine Guillaume, à la Sorbonne, au Collège de France.
Oui, critique et cinéphilie.
Vous étiez entre gens de mauvaise compagnie,
à la Philippe Mérique,
Brouillet, Simon Rio.
Oui, il y avait beaucoup de gens infréquentables qui se demandaient comment être critique et cinéphile dans ces années numériques où tout est accessible, contrairement à une époque où il fallait courir le monde entier pour découvrir une copie usée d'un film dont vous aviez rêvé depuis longtemps. C'était pas inintéressant, ça fêtait les 70 ans de l'AFCAE, l'Association Française des Cinémas d'Art et Essais.
On salue.
Et on voulait quand même dire que la cinéphilie, ça s'intéressait au cinéma en son entier, d'hier comme d'aujourd'hui, et encore plus de demain.
Absolument, et on vous retrouvera en fin d'émission pour une chronique de Hélène Usdin et Bonny pour Détroit Roma chez Sarbacane. Mais en attendant, premier livre consacré à Franck Margerin, premier livre d'entretien très poussé, très détaillé, très très bien illustré, et qui paraît aux éditions Mediapop. Donc bravo Samuel Guilleran. Et puis on a demandé si Franck Margerin était disponible pour un entretien. Il nous l'a accordé, donc on s'est rendu dans son antre. On ne vous dira pas où c'est, simplement que c'est quelque part dans le 75. Et puis il nous a tout détaillé, son parcours, son antre, parce que c'est un grand collectionneur, c'est même plus qu'un grand collectionneur. C'est quelqu'un qui est tout à fait lié aux objets, aux atmosphères, aux époques, à toutes les marques et tout. On le retrouve donc en compagnie de Sixtine Audebert et d'Antoine Guillaume. Entre ici, Franck Margerin. Bonjour Franck Margerin, merci Bonjour. D'accueillir Mauvais Genre pour cet entretien à l'occasion de la sortie aux éditions Mediapop, donc de ma vie avec et sans Lucien. Alors là, on commence non pas dans votre angle, dans votre atelier, mais à l'extérieur, au pied donc d'un Space Invader Lucien. Quelle est l'histoire de cet hommage?
L'histoire, c'est qu'un jour, un ami galeriste
m'appelle et me dit « Est-ce que je peux passer te voir avec un copain ?» Je lui dis « Bien sûr, j'ai pas aucun problème. » Et puis il me dit « Tu verras, c'est quelqu'un de connu et tout ça. Bon. » Et puis il me parle d'Invader. En fait, moi, j'y connaissais rien à l'époque. Toi. J'ai dit « Invader, bon, ok, je connais pas, mais il peut venir, pas de problème. » Et puis voilà, on a sympathisé. Après, il m'a montré tout ce qu'il faisait. Je lui dis « Putain, mais je suis un vrai plouc, c'est pas possible. Le truc, il en a foutu partout dans Paris. » Alors, je les avais vus comme ça, mais sans trop faire gaffe, toi. Et du coup, je commençais à m'intéresser à son travail. Je dis, bon, c'est un respect quand même, parce qu'il y en a partout, toi-même, sur les lettres d'Hollywood et tout ça. Et il m'a proposé de mettre un Lucien dans le quartier. Alors, j'étais pas peu fier, tu te doutes bien. Alors, on a fait un petit tour d'horizon, on s'est dit, bon, ça pourrait être. Et puis, on a pensé que là, ce serait pas mal, parce que quand je sors de chez moi, je tombe dessus. Voilà. Au début, je le voulais dans ma rue. Puis après, il me dit, je te préviens, ça va faire venir du monde. Ah bon? Bon, alors, on va venir plutôt dans la rue d'à côté. Voilà, et puis.
Ça date de quand?
Bah, c'était pendant le confinement, je sais qu'il l'a posé à 3h du matin, il m'a dit ça, donc ça devait être en 2019-2020, ouais. Peut-être 2020. Ouais. Mais oui, quand j'ai su que j'allais avoir un Invader, j'étais après super fier, parce qu'il n'en a pas fait tant que ça, avec des personnages, plutôt en général des petits Invaders. Quoi.
Là, on est dans un quartier qui a compté pour vous, parce que même si vous êtes né du côté, alors, accident de la route, vous êtes né à Neuilly, mais enfin, vous êtes un gamin d'Asnières, du nord de Paris, du 17e arrondissement. Mais le 15e, c'est quoi? C'est le lieu de vos études? C'est le lieu de vos premiers boulots?
Putain, il est grand seigneur, je pense. Je pense qu'il a eu des échos. Oui, effectivement, quand j'étais aux arts appliqués, donc c'est l'école des arts appliqués est à côté rue Villiers-de-Serre, pas très loin d'ici, j'avais un prof de dessin qui, en fait, était sculpteur et qui avait son atelier ici. Donc un jour, il a dit « Allez, je vous emmène à mon atelier ». Alors on est arrivé dans cet appart, j'ai dit « Waouh, trop fort, trop beau » et tout ça. Et voilà, on a regardé ses sculptures, tout ça, c'était sympa. Et quelques années plus tard, je sortais de l'école. Et mon professeur de dessin de textile, parce que c'était vers là que je pensais m'orienter par la suite, m'a dit « Je connais un petit studio qui fait des dessins de textile et je pense qu'ils pourraient être intéressés. Enfin, on va aller les voir. » Et c'était dans la même impasse. Alors je dis « Mais c'est pas vrai. » Et voilà. Et quelques années après, je m'y installais. Ça fait 42 ans de ça. Voilà. Ça passe, hein.
On est dans une impasse avec des petites maisons, ça serait presque des pavillons. On ne serait pas très loin du Malakoff réinventé de la banlieue pavillonnaire qui est peut-être votre grand motif avec la banane qu'on a évoquée tout à l'heure.
Ah ben moi, j'adore les pavillons. Quand j'étais gamin, j'étais fasciné par... Il y a toujours des pavillons avec des petits trucs. Bon, les jardins avec les nains, toi, les puits en pneus, des trucs comme ça. Tout ce qui est un peu ringard, je trouve ça au contraire vachement touchant. J'aime bien, c'est un peu... la France profonde, mais que j'aime, quoi. Il y avait beaucoup de petits vieux qui étaient là depuis la nuit des temps et qui sont morts depuis. Et ça a été racheté par des gens qui ont un peu plus d'argent. Alors, ma demeure. Je vais faire le sketch de Dufilo.
La chapelle.
Prends bien la bruit de la serrure. Ah, voilà. Rentrez donc, vous êtes chez vous. Ça paye un peu dehors, hein.
Merci. Ah, voilà.
Home sweet home.
Nous y sommes.
Alors, quand on dit toujours, faites pas attention au bordel. C'est comme ça tout le temps. C'est un peu un musée, un atelier musée. Ça a été même un atelier musée garage, parce qu'à un moment, j'ai eu jusqu'à 4 motos à l'intérieur. Mais ça sentait un peu l'essence quand même. Voilà, donc ma chérie, mais pas trop. Alors, qu'est-ce que vous racontez?
Moi, rien, mais toi, sûrement. Alors, premier choc, c'est quand même la collection de Flitox. Alors, j'ai souvenir d'avoir vu mes grands-parents s'en servir, mes parents également, mais j'en avais jamais vu autant et à ce point à la parade, avec chacun une couleur différente. C'est l'objet emblématique d'une enfance, d'un souvenir, de quoi?
C'est en fait complètement le hasard, parce qu'à l'origine, moi, bon, c'est vrai que je collectionnais un peu les collections, dès que j'avais un truc un peu vieux, ancien, qui me rappelait des petits souvenirs d'enfance, tu vois, la vieille boîte de bouillon cube, ou Banania, tout ça, je gardais, tu vois. Et puis un jour, je vois les bidons qui sortaient d'une sorte de caisse, c'était comme des poubelles, mais c'était des débarras, quoi. J'ai cru que c'était des boîtes en fer, donc je les prends, et quand je tire, il y a deux tuyaux qui suivent avec une petite poignée en bois, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Puis j'ai dit, ah bah oui, c'est les fameux Flytox qu'on avait quand on était môme dans notre placard, quoi. Alors je les ai pris, je trouvais ça rigolo comme objet, c'était un peu dérisoire et sans intérêt, mais je me suis dit c'est quand même rigolo. Puis après j'ai appris qu'il y en avait dans tous les pays, dans toutes les formes, partout. Et finalement, j'ai commencé à les collectionner. On m'en ramenait dans les festivals BD. Alors des fois, j'étais emmerdé parce que je repartais avec deux, trois Flight Talks sous le bras. Les gens me regardaient un peu comme un martien avec mes trucs. Et c'était vraiment, c'était sympa. Bon, maintenant, on m'en ramène plus parce qu'à chaque fois, je leur dis que je l'ai déjà en trois exemplaires. Ça les vexe un peu. Mais oui, j'en ai plus de 400. Donc voilà, j'en ai à peine 150 là. J'en ai partout.
Mais ce goût de la collection de l'objet ancien, on la retrouve dans vos planches, parce qu'il y a toujours une accumulation de détails, mais aussi un vrai côté conservatoire du passé. Je parlais de la banlieue pavillonnaire réinventée de Malakoff, mais même quand vous commencez à créer Lucien, on est en 1979, si je me trompe pas, c'est déjà un Lucien qui se passe dans le passé. C'est-à-dire il y a la conservation d'un passé immédiat qu'il fallait presque figer sur la planche.
Oui, alors ça m'a posé un problème quand je suis allé voir Metal Hurlant, parce que c'est comme un journal de science-fiction. Alors quand on dit science-fiction, on pense plutôt futur, les trucs très designés, futuristes, avec des robots, des machins. Et moi, ce que j'aimais dessiner, c'était des vieux postes de Philips en forme de boîte à jambon. Tous les vieux trucs que j'aimais, c'était la brocante. Je passais beaucoup de temps à faire les brocantes. Et donc j'ai fait en fait une espèce de science-fiction, ils appelaient ça comment, Charentaise, voilà c'est ça. Donc c'était des petits papis dans leur intérieur avec tout ce que j'aime, les vieux postes de radio, les vieilles télés avec les tout petits écrans et les gros boutons. Et puis j'ai rajouté un ou deux martiens, c'était bon, c'était de la science-fiction, voilà. Bon ça n'a pas duré longtemps, j'ai fait ça pendant un an ou deux. Puis heureusement Lucien est arrivé pour un spécial rock.
J'étais tranquille, j'étais peinard. Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar. A commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi. Puis il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit. Laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Comment c'était justement le Metal Hurlant de l'époque où vous arrivez, Metal Hurlant vient à peine de commencer, vous arrivez au numéro 6 en 1976, vous auriez préféré aller à Pilote mais le boulot était à Metal Hurlant donc vous êtes allé à Metal Hurlant, il y avait quand même déjà, bon ils n'étaient pas beaucoup plus âgés que vous mais c'était les grands anciens, il y avait Moebius, il y avait Druyer, puis il y avait le Ludion Dionnet, bientôt Philippe Manœuvre qui arrive, vous décririez comment le Metal Hurlant de ce moment-là?
À vrai dire, je connaissais pas trop Metal Hurlant. C'était un peu le hasard qui m'a amené là-bas. Je présentais mon dossier aux éditions Nathan et je suis tombé sur Bernard Farkas, qui est en fait le quatrième luron des créateurs de Metal Hurlant. Donc il y avait Dionnet, Druyer, Moebius et puis Farkas, qui lui s'occupait plutôt de l'administratif, enfin des trucs un peu chiants. Et il a vu mes petits dessins, il m'a dit « Ah, mais... ça pourrait peut-être intéresser Jean-Pierre Dionnet, on vient de monter un journal, ça s'appelle Metal Hurlant. » Alors j'avais vu quelques affichettes comme ça à la sortie du journal avec le gros monstre dessiné par Moebius. C'était une magnifique affiche, donc j'avais un peu flashé dessus. Et je me suis dit « bon, bah oui, pourquoi pas ?» Mais dans ma tête, pour moi, c'était un gros fanzine. Enfin, je savais pas ce que c'était du tout, c'était la surprise. Donc je suis allé les voir et il m'a donné ma chance en me disant « fais-moi une petite histoire de 4 pages, si elle me plaît, je la passe et puis on verra bien, parce que j'avais des dessins à lui montrer. » Coup de bol, ça lui a plu, donc j'avais un pied dans la porte. Et puis, le temps passant, j'ai commencé un petit peu à faire mon trou, enfin à m'installer. Dionnet a commencé à me donner la couleur, parce qu'au départ, le journal était en noir et blanc. Et puis, que j'aurais pu prétendre aller voir Pilote, parce que j'avais un niveau un petit peu plus intéressant, on va dire. Bon, c'était quand même très modeste, mais bon. Ben, j'avais plus envie, j'étais bien métal, j'étais chez moi et... Et voilà, puis j'avais d'autant plus ma place qu'il n'y avait pas d'humour, donc c'était la petite touche d'humour de métal. Après, par la suite, avec l'arrivée de Manœuvre, ça a été plus rock'n'roll et le journal a un petit peu changé. Mais à l'époque, c'était encore un peu SF quand même.
Vous auriez pu aussi commencer chez Actuel. D'ailleurs, vous ferez des choses plus tard avec cette bande-là, parce que ce qu'on sait peu, c'est à quel point vous avez été influencé par la BD underground américaine, par les Crumb, les Shelton et autres. C'est vrai que votre dessin est très identifié franco-belge maintenant dans sa rondeur et son pinceau, mais au départ, la grosse influence, c'est ça. Quand on voit vos dessins de l'époque, il y a quantité de hachures, il y a un trait parfois qui est presque proche de Ronald Searle dans la façon de déformer les personnages. Votre culture graphique à l'époque, c'était quoi ?
En fait, le truc, quand tu me parles de Ronald Searle, c'était aussi un peu réserve. Ronald Searle, c'était un peu un mélange des grandes gueules, des nez qui n'en finissent plus, des grandes bouches et tout ça. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était au départ plutôt pour faire rire mes copains des Arzas. Donc j'avais 16-17 ans, je prenais une formation classique, puisque là-bas on n'apprenait pas du tout la BD, c'était même plutôt mal vu. Mais dès que je pouvais faire un petit dessin pour faire marrer le pote, avec une nana avec des gros seins, un type énorme avec... etc., tout ce qu'il faut. voilà, je le faisais, ça faisait marrer les potes. Mais après, c'est vrai que j'ai jamais osé le montrer. Là, je l'ai mis dans le bouquin parce que c'était amusant de montrer les petits dessins de potage que je faisais à l'époque. Mais non, j'ai jamais montré ça. Ouais.
Il y a un dessinateur aussi qui est cité dans le livre d'entretien avec Samuel Guigrand, c'est Dubout. Alors Dubout, c'est vrai qu'on pense très vite à Dubout en voyant vos travaux, parce que il y a à la fois cette espèce de France comme ça moyenne, de couple, de famille, de confort, et en même temps avec une vision un peu délirante et décalée. Donc Dubout, quel est votre lien avec le grand Dubout ?
Albert Dubout, c'est mon père spirituel, parce que c'est vrai que tout gamin, déjà, mon grand-père m'avait offert des bouquins illustrés par Dubout. Et puis, je voyais les affiches de la trilogie Pagnol, tout ça. Et c'était toujours la grosse mamère avec le petit mec à lorgnon. Et les vieilles locomotives avec la cheminée qui est rapiécée. Les roues en 8. Ça partait dans tous les sens avec des tas de petits détails. Et moi, j'adorais ça. Et donc, c'est peut-être de là que vient justement mon souci des petits détails d'arrière-plan. Parce que j'adorais chiner dans les illustrations d'Albert Dubout en regardant tous les petits détails et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Ouais. Entre Dubout et Crumb, je crois que c'est là que je me suis vraiment formé. Il y a un grand écart.
Et pourtant, votre dessin est vraiment... quand vous avez trouvé votre style, enfin le moment où on en parlera peut-être, où vous êtes passé de la plume au pinceau, un moment important dans votre carrière, vous vous inscrivez vraiment dans une ligne franco-belge qui serait... pas comme les d'autres collègues de Métal Hurlant comme Chaland ou Serge Leclerc qui étaient du côté de la ligne Leclerc à la Hergé. Vous êtes vraiment de l'école Spirou, l'école Franquin, l'école Maurice. Vous le dites même dans le livre, ça se voit à la manière dont les personnages fléchissent les jambes. Ils sont toujours un peu les genoux pliés.
Non, c'est vrai qu'on est influencé par des tas de maîtres, je vais les appeler comme ça, qui m'ont vraiment donné le goût de la BD, dont vous avez parti Franquin, Maurice, toute cette école franco-belge. Et puis c'est ce que je lisais quand j'étais môme. Bon, j'ai commencé un peu avec Mickey, le journal Mickey, quand j'étais abonné, mais j'étais tout gamin vraiment. Après, ça a été Pilote et Spirou. Je les recevais les deux journaux, parce qu'avec mon frère, on se les partageait comme ça. Et c'est vrai que j'ai été vraiment marqué par cette école franco-belge que j'adorais, parce que c'était facile à lire, c'était pas prise de tête. Quoi. C'était... Et donc, j'ai voulu continuer dans cette veine-là, mais en ajoutant une petite touche un peu, justement, Crumb, un peu plus rock'n'roll, quoi, mais ça restait quand même vraiment franco-belge. J'avais pas du tout honte de me revendiquer de cette ligne, parce que pour moi, c'était les bases. C'était, voilà. Et puis après, c'est vrai que c'est revenu à la mode avec des gens comme Yves Chaland, justement, qui a remis au goût du jour ses vieilles BD rétro. Et après, il y a eu toute une ligne claire, effectivement, Ted Benoît, Serge Leclerc, enfin, ils sont nombreux qui se sont engouffrés là-dedans et qu'on fait un peu ce qu'on lisait quand on était gamin, mais avec par contre un deuxième degré, quoi, une lecture plus adulte. Ouais.
Yves Chaland, avec qui on apprend dans ce livre qui contient plein de documents inédits et croquignolesques, que vous avez à un moment partagé le flambeau pour le dessin de la pub Malabar. Hein. Si on reprend un peu la chronologie, donc en 72, vous publiez vos premières planches dans Lui et Playboy. Après, en 74, vous rencontrez Farkas et en 76, dans Métal Hurlant. Et en 78, c'est le début de Lucien à proprement parler, donc dans ce numéro spécial rock, le numéro 39 bis. Et c'est là que vous inaugurez donc cette série, mais au début, c'est pas exactement la série qu'on connaît actuellement. Il y a un personnage, il y a d'autres personnages qui accompagnent Lucien, et Lucien n'est pas au centre. Et par ailleurs, c'est une série qui est inspirée de votre expérience aussi du rock. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette mise en place de la série?
Je crois que c'est Philippe Manœuvre qui était à l'origine de ce numéro spécial rock, parce que quand il arrivait dans Métal Hurlant, c'était très SF, et lui venait de rock et folk, donc il a insufflé cette espèce de courant rock'n'roll. J'ai eu l'idée de créer une bande de copains, mais ça devait être un one shot, ça devait pas revenir, donc que ce soit Lucien ou un autre, peu importe, c'était une bande de potes, et puis c'était tout. Voilà. Donc j'avais choisi un look, une époque, un peu plutôt années 60, toujours pour rester dans ce que j'aime dessiner, les vieilles dauphines, les vieilles voitures, et puis le look un peu des années 60 que j'ai connu quand j'étais gamin, qui me fascinait, parce que moi j'étais pas du tout rock'n'roll, et je voyais les mecs avec ce qu'on appelait les blousons noirs à l'époque, c'est qui roulaient sur des malaguti, maintenant on serait mort de rire, mais à l'époque, ils foutaient la trouille, quoi, on les voyait avec leurs bananes, leurs flaquettes et tout ça, puis leurs fameuses chaînes de vélo. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une BD, sur cette ambiance un peu rock'n'roll, rétro, qui se passe dans ces années, ces fameuses années 60, dans un pavillon, etc. Et puis j'ai raconté une petite scène un peu de répétition dans la cave d'un pavillon. Voilà. Enfin, c'était une histoire un peu nunuche, mais rigolote quand même. Et je pensais pas que ça irait plus loin. Pour moi, c'était voilà. Et puis j'ai demandé. Vraiment, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de raconter. En plus, j'avais pour une fois des potes qui m'appelaient en me disant, waouh, la dernière BD est trop forte, géniale et tout. Enfin, on parlait pas comme ça à l'époque, mais bon, ils disaient, ouais, elle est super, elle est sans sas. Et donc, ça m'a encouragé à continuer avec Lucien et ses potes. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu nombreux. Alors j'ai commencé à dégager. Je sais plus Roger, Robert, enfin des quelques-uns. Ils étaient six au départ, donc ça faisait beaucoup. Et puis Lucien, lui, il a pris le devant avec sa banane un peu ridicule, et surtout qu'on identifie très rapidement. Quoi. Donc c'est lui qui a pris la vedette, mais presque à mon insu, parce que pour moi c'était Ricky, Ricky qui est inspiré de mon grand copain de l'époque, qui était la vedette, et Lucien le faire valoir. Et puis voilà, avec le temps, Lucien est passé devant, et c'est devenu lui la vedette.
On construit un personnage comme Lucien. Les éléments viennent les uns après les autres ou tous ensemble. La banane conique et iconique, elle arrive d'abord et puis le reste se construit. Comment ça s'est fait, la jeunesse de Lucien ?
Lucien, au départ, bon, c'était le gros nez, parce que le gros nez, c'est l'humour. C'était le gaffeur, donc c'est toi, c'est un peu, on va dire, Gaston Lagaffe, quoi, plus rock'n'roll. Bon, la banane, j'avais commencé à faire des histoires avec des rockeurs, pour une espèce de parodie des contes de Perrault, qui s'appelait les contes du Perrault. Il y avait un type qui avait déjà un peu la banane de Lucien, un peu dans une foule qui attendait devant une salle de concert. Donc, les choses commençaient à se mettre en place. Bon, Lucien, c'était le gaffeur, donc le gros nez, la banane, il était un peu ridicule. Et puis les autres, Gilou, je me suis inspiré de mon frère, qui a un petit nerf troussé en prise de courant, comme ça. Le Ricky, là, un nez cassé, il s'était pris un volet sur la gueule quand il était petit, tu vois. Donc, je raconte tout. Et le gros menton, il est cassé. Mon baryton, je me suis inspiré du bassiste d'un groupe qui s'appelait Ricky Beaulieu. Voilà. Et en fait, j'ai pris le nom de Ricky Beaulieu en hommage à Ricky Beaulieu. Enfin, tout se recoupe comme ça. C'était plein de petits private jokes. Et voilà. Et puis, par la suite, ce sont devenus des héros avec, enfin, des personnages de BD, mais c'est vrai qu'au départ, c'était juste un clin d'œil aux copains, quoi. Je ne pensais pas qu'un jour, ça allait devenir une série, quoi.
Mais parce que ce qui marche, c'est le côté foireux, comme vous dites, oui. sur le dessin. C'est-à-dire que c'est toujours les plans lamentables. On appelle même ça un plan à la Margerin. À un moment, quand vraiment on essaye de faire des choses, puis tout se casse la gueule. Et c'est vrai qu'il y a cette idée géniale graphique, mais qui évidemment s'impose sans qu'on se dise, tiens, je vais avoir une idée géniale graphique de cette banane conique et iconique de ce fait, et qu'on retrouve déclinée là dans le mur de l'escalier qui monte dans votre espace de travail par plein de dessinateurs qui reprennent tous effectivement cette banane. Ça a été repris jusqu'à la télévision par Antoine Decaune, Didier Lambrouille, tout vient de là, et c'est devenu presque un mème, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire un objet qui symbolise le rock des années 60, complètement indépendamment de Lucien. Alors est-ce qu'il y a un moment où tout ça vous dépasse, c'est-à-dire que cette banane presque vous échappe?
Là, pour le coup, elle m'a bien échappé, puisqu'il y a eu toute une campagne rock'n'roll au bon marché avec la banane de Lucien. Voilà, mais oui, après, cette banane, ben voilà, je l'ai créée, mais tout le monde peut se l'approprier. Il y a eu la vache qui rit, un moment qui l'avait. C'était marqué trop typé. Il y a eu plusieurs comme ça. Oui, j'ai retrouvé cette banane même sur Droopy. J'ai eu une carte postale avec Droopy avec la banane. Je l'ai vu sur Picsou. J'ai là-haut un journal avec Picsou qui a la banane de Lucien. Donc moi, ça me touche, ça fait plutôt plaisir. Je considère que c'est un hommage plutôt qu'un plagiat ou un pillage. Mais non, c'est un hommage et je suis plutôt honoré par ça. Mais c'est vrai que les situations maintenant, c'est vrai que des fois on dit margerinesque. Je l'ai lu dans des articles. Quand c'est une galère, c'est du margerinesque. Et c'est vrai, il y a que ça qui fait rire, parce que quand tu es avec tes potes, tu vas jamais raconter tes vacances qui sont super bien passées, toi. Tu vas raconter que les galères, la bagnole qui tombe en panne, le truc que t'as perdu en chemin, le truc machin. Enfin, toutes les galères, c'est ça, ça fait rire. Donc, c'est un peu mon fond de commerce. Donc Lucien, il a monté un groupe avec ses potes et. Et comme souvent, malheureusement, dans le rock'n'roll, il y a beaucoup de galères. Voilà. Et depuis, d'ailleurs, j'en compte toujours des musiciens qui me disent « Mais c'est pas possible, tu nous suis, c'est exactement ce qu'on a vécu. » Enfin, ils ont tous un peu les mêmes problèmes, quoi.
C'est quand même aussi devenu le fonds de commerce de Métal Hurlant à l'époque, hein, puisque après l'arrivée de Manœuvre et le démarrage de Lucien, il va y avoir une foultitude de séries qui reprennent cette idée de BD rock, hein, Trambert et Jeannot, Dodo et Ben Radi, que sais-je, Pierre Wynne et j'en passe. Et donc, vous avez quand même été, vous êtes le papa hein, de cette BD rock quelque part.
Je sais pas si je suis le papa. Disons que ça attendait d'exploser. J'ai peut-être mis un petit peu le feu à la mèche, mais c'est vrai que Trambert et Jeannot, déjà de leur côté, faisaient l'histoire de Zonard. Bon, c'était sorti dans le Crapaud Baveux, je crois, enfin dans un journal qu'on connaissait pas. Pierre Rouin, lui, bon, bah c'était rude, hein, c'était la drogue, les mecs qui se shootaient. Il y avait que Metal qui pouvait publier ça. Un peu Vipère, c'était un journal qu'on appelait un dope comics à l'époque, qui racontait aussi des histoires de toxico, quoi. Et puis Dodo Ben Radi, c'était un peu le côté mods, un peu plus dandy, voilà. Bon, chacun avait son style et je sais pas si je suis le papa, mais enfin oui, je faisais un peu partie du wagon de tête, quoi.
Le papa et le pape, surtout, parce qu'il y a un moment où ça a tellement de succès que vous portez presque les humanoïdes associés sur vos seules épaules. Et puis, parallèlement, on va en parler aussi, vous avez votre carrière musicale avec Denis Cyr, le Denis Twist, et tout d'un coup, vous faites un tube qui est classé 10 dans le top 50. Tu dis que tu l'aimes. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à raconter des histoires de galère quand on commence à avoir du succès?
Mais écoute, j'ai jamais eu vraiment l'impression d'avoir du succès, toi. Enfin, je voyais bien que ça marchait, je voyais bien quand je faisais des séances de dédicaces, le stand, il commençait à reculer, toi. Il y a des petits symptômes, des petits trucs, je me dis, tiens, c'est marrant, c'était pas comme ça avant. Et puis, je voyais bien les droits d'auteur, je dis, ah, bah là, c'est super, je vais pouvoir me payer psy et ça. Enfin bon, ça commençait à être intéressant. Et puis, les humanos, dès qu'ils pouvaient, ils me disaient, tiens, on va faire un concours, c'est toi qui feras le dessin, gagner la voiture de Lucien, gagner le scooter de Lucien. Enfin, il y avait des tas de trucs comme ça. Mais je sentais pas que je portais les humanos, mais c'est vrai que pendant un moment, je l'ai su 10 ans après, ils m'ont dit pendant quelques temps, si t'avais pas été là, on coulait. Alors, ça m'a fait plaisir quelque part. Je dis, ils me l'ont pas dit, bien sûr, parce qu'ils auraient eu trop peur que je demande une augmentation de la page, du prix de la page.
Pour progressivement, effectivement, l'aventure va devenir donc une véritable aventure de presse. Il y aura Rigolo qui va être une sorte de spin-off de métal, il va y avoir Zulu, etc. Et puis ça va même sortir du cadre strict de la BD. Hein. Vous allez commencer à, fournir un certain nombre d'illustrations, un nombre titanesque en fait d'illustrations pour la publicité. Alors que, comme vous le racontez dans le livre d'entretien, dans les années 70, vous aviez tenté de vous lancer par là et ça n'avait pas fonctionné. Alors dans les années 80, vous avez le vent en poupe et vous signez des publicités pour Heineken, pour je crois que vous avez fait même des pubs pour Fnac. Il y a le célèbre sac. Ah oui, c'est Cronenbourg. Cronenbourg Heineken. Du moment que ça se boit.
Ça mousse.
Alors, qu'est-ce que ça a fait effectivement cette énorme demande, puisque finalement vous avez été partout, Lucien partout.
C'est vrai que je me rendais pas compte, mais j'avais quand même une certaine facilité à travailler vite. Donc j'avais un agent à l'époque qui bossait bien et me branchait tout le temps sur des trucs. Et moi, j'acceptais tout, hein, forcément. J'étais trop content qu'on me fasse bosser parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre qu'on t'appelle. Et c'est comme les premières séances de dédicace quand il n'y a personne, tu vois. C'est horrible. Ma toute première séance, j'étais à côté de Meubius, tu vois. Donc les gens, ils s'asseyaient devant moi. Ils s'asseyaient sur ma table comme ça. J'avais que des fesses comme ça devant moi. Ils attendaient que ça défile à côté, tu vois. Mais, c'est pareil pour le boulot. Quand tu démarches toutes les agences pour trouver le moins de petits trucs, et puis qu'après, tout le monde te sollicite, tu ne vas pas commencer à dire non, ça ne m'intéresse pas. Et puis j'aimais ça, j'aimais dessiner, donc j'ai fait effectivement beaucoup de choses, mais je ne m'en suis pas rendu compte, ça s'est fait comme ça, tout seul, finalement. Ce que je regrette maintenant, c'est de ne pas avoir gardé des exemplaires de chaque, parce que je vois qu'il y a des tas de collectionneurs maintenant qui recherchent avidement tout ce que j'ai fait. Et ben, moi, j'ai détruit un plein de trucs dont j'ai même oublié l'existence, parce que c'est des trucs que j'ai fait il y a tellement longtemps. Quand je vois ça sur les réseaux sociaux, le mec dit « Ah, j'ai trouvé ça ». Je dis « Oh putain, mais j'ai fait ça ?» Bah oui, c'est vrai. J'oublie, quoi. Le temps passe et puis on oublie.
On va peut-être bouger vers le haut, bouger vers l'atelier, monter au premier niveau.
Et tout à fait. Alors suivez-moi, faites attention à ne pas tomber.
Ne renversez rien.
Bon, là, il y a une pile de casques dans l'escalier, mais...
Ah oui ?
De temps en temps, ils se cassent la gueule, mais ça va, c'est les casques. C'est là que je travaille, donc comme tu vois, beaucoup de lumière. Et je travaille, toi, sur un bureau qui doit faire 4 mètres de large. Mais mon espace vital, là où je travaille vraiment, il fait 50 cm de large. Tout le reste est envahi par photocopieuses, scanners, PC et autres piles de papier.
Derrière nous, il y a un des objets les plus fascinants de cet atelier, Franck Margerin, c'est l'arbre aux accréditations. L'arbre aux accréditations croule sous, les fruits. Combien d'accréditations depuis les origines ?
Je l'ai bien élagué, cet arbre, parce que franchement, il croulait pour le coup. Et j'ai tout mis dans un gros carton. J'avais compté, il y en avait un peu plus d'une centaine. Et ça, c'est ce que j'ai récolté depuis. J'en ai encore un d'ailleurs dans mon sac parce que je reviens d'un festival. Mais tous les festivals ne donnent pas un petit pass comme ça avec le truc. Donc mais il y a une époque, d'abord j'en faisais beaucoup, j'en fais toujours beaucoup d'ailleurs. Je suis quasiment presque tous les week-ends en festival. Bon, j'adore ça, donc mes copains ils comprennent pas, ils disent mais t'es fou quoi. Mais j'écoute, c'est génial.
Oui, c'est la respiration peut-être fondamentale.
Maintenant,
c'est le dessin quand même, mais il y a cette espèce de contact permanent, renouvelé, fervent avec des gens qui sont à la fois du présent, puisque on est dans l'instant, mais en même temps dans une mémoire qui quand même les gens arrivent avec des objets du passé. Donc c'est peut-être le moteur, l'énergie, elle est là aussi.
Pendant longtemps, si tu veux, c'était la promo. Donc c'était un peu obligatoire. L'éditeur te disait, on sort un bouquin, tu vas faire telle librairie, tu vas faire tel festival, tel machin, tout ça. Bon, je le faisais toujours avec plaisir. Mais là, maintenant, j'ai rien à vendre, sauf le bouquin avec Samuel Guérian qui vient de sortir. Mais sinon, non, je suis invité partout parce que, si tu veux, ça fonctionne sur l'inertie. Pour le jeu, je suis un vieux dessinateur, alors donc je suis très souvent invité d'honneur, donc très souvent je fais l'affiche. Donc c'est déjà ça m'occupe. Et puis là j'ai vraiment un rapport avec mon public qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'avant il venait prendre une dédicace, acheter l'album, et puis c'est tout juste il m'adressait la parole. Là maintenant ils s'assoient, ils sont confessionnels, toi. Donc ils disent ça fait 40 ans que j'attends ce moment. Et ils me racontent leur vie. Ils me racontent quand il y a la cour de récré, les machins, les BD du grand frère qui les en cachette. Enfin, tout, ils me racontent leur vie. C'est super drôle. Et des fois, c'est même très émouvant parce que tu te rends compte que ces petites BD que tu fais comme ça inconsciemment, sans prendre conscience de ce qui va se passer après, tu fais ta BD, après elle vit sa vie, elle passe de main en main. bah, y a des gens que ça a touché, que ça a marqué, que ça a... Même des fois, ça les a guidés vers autre chose. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont mis à la musique en lisant Lucien. Ils n'avaient pas spécialement d'intérêt pour la musique, mais ils aimaient bien l'idée de la bande qui se retrouve, qui joue, les galères, ça les faisait trop marrer. Et donc, ils ont dit, allez, on monte un groupe. Et puis, après, ils sont devenus musiciens. Toi. Donc, je me dis quand même, il y a des gens qui ont changé leur destinée en lisant Lucien. Donc ça, c'est marrant. C'est des trucs que j'entends maintenant, que je n'avais pas autrefois, bien sûr. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir les gens, quoi.
Surtout que Lucien, qui était une bande dessinée pour des ados un peu en rupture de famille, qui effectivement jouait de la musique dans le garage en se faisant engueuler par les parents, maintenant ils ont vieilli, ils sont devenus parents eux-mêmes et c'est devenu une bande dessinée familiale. C'est ça qui est très étonnant avec le destin de Lucien. Et puis Lucien lui-même a vieilli, est devenu un daron à cheveux blancs qui est un peu déconnecté de ses enfants, qu'elle la ramasse mais qui essaye de faire ce qu'il peut pour être encore jeune au moins dans sa tête, malgré son embonpoint. Pourquoi est-ce que vous avez fait vieillir, Lucien ?
Ben écoute, moi ça m'a paru naturel parce qu'il y a un moment, effectivement, j'ai fait tous mes Luciens comme ça jusqu'au numéro, je sais plus, 8 ou 9. Et puis après, j'ai attaqué Momo le coursier, j'ai fait une BD sur Charlie Dino. Enfin, je suis passé à d'autres choses. Et puis après, 10 ans ont passé, je me suis dit, ce serait bien quand même que je fasse revenir Lucien. Mais le faire revenir là où je l'ai quitté, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais pas reparler de l'histoire de Flipper, de Babyfoot et de Mobilette. Il y a, entre temps, j'ai été père, les portables sont arrivés, il s'est passé plein de choses, donc, et j'ai pas réfléchi longtemps, hein. Je me suis dit, bon, bah, c'est simple, Lucien, il va vieillir, il va prendre 30 kilos, 30 ans, et il aura des enfants, et ainsi de suite. Et là, je suis reparti quasiment les compteurs à zéro, c'est-à-dire que j'avais à nouveau plein d'idées, plein de trucs. Et là, je me suis beaucoup plus projeté dans Lucien, c'est-à-dire que vraiment, je racontais encore plus qu'à l'époque des trucs qui m'arrivaient, parce que j'ai mis mon fils, j'ai mis ma fille, ma femme de l'époque, et tout ça, dans la BD, et je me suis mis en situation, c'est vrai, le côté, t'entends les jeunes qui font la fête dans la chambre de ta fille, qui foutent le bordel, qui t'ont piqué tes bières, là t'es le gros réac, t'as qu'une envie, c'est de les foutre dehors, c'est tous ces branleurs. Et puis en fait, quand t'ouvres la porte pour les sortir et pour les jeter, ils te sautent au cou en disant « Oh, c'est tellement sympa de nous laisser faire la fête chez vous » et tout ça. Alors du coup, t'es là comme un con, « Bah oui, bah, c'est normal, les jeunes, faut les aider. » Et donc c'est ce genre de situation, on a tous vécu, quoi. Et j'aime bien l'idée que, bon, bah voilà, on n'est pas toujours tout bien, on peut être... Enfin, pas toujours tout blanc, tout peut être de temps en temps la face obscure, le gros beauf, et puis voilà, il suffit pas grand chose pour qu'on redevienne un peu le mec cool. Et avec Lucien, c'est un peu ça. Bon, il veut faire plaisir à son fils ou à sa fille de temps en temps, il fait des efforts, mais bon, après, c'est pas toujours récompensé parce que quand il veut offrir ses disques, ses vinyles, qu'il veut faire écouter ses disques, il s'aperçoit que tout le monde s'en fout, quoi. Que ça pèse lourd et que c'est rayé, que c'est jamais le bon disque dans la bonne pochette. Donc il sent que c'est de plus en plus foireux, sa démonstration, comme quoi il leur laisse un putain de patrimoine. Et après, quand il voit que la gamine, elle a de 5000 disques ou 10 000 disques sur son petit iPhone, enfin son petit truc, et c'est un iPod, bah après il revient et dit « ça coûte cher ton truc là ?» Parce que c'est sûr, bon, il y a des trucs qui appartiennent à une époque et les gamins, ils ont rien à foutre.
Qu'on est face à la salle de bain où se trouve une espèce de photo miroir, le cabinet de toilette de Franck Vargerat, où se trouve un portrait de vous, je crois, hein, un portrait d'un bébé souriant.
Ça, c'est une plaque phosphatine phalière. Et le bébé me ressemble effectivement, mais c'est une contrefaçon. Moi, j'étais bébé blédine. Voilà, donc
on découvre ces belles affiches au début du livre. On vous voit tout petit, tout enfant. Dès que vous apparaissez sur Terre, on a envie de vous prendre en photo pour faire de la publicité.
Écoute, il y avait une dame qui s'appelait Hergé Landau, qui était une photographe, mais qui avait un peu pignon sur rue à l'époque, qui était assez connue. Qui avait flashé sur moi, c'est le cas de le dire. Et enfin, elle m'a vu quasiment naître. Les premières photos de moi, j'ai 3 mois, je suis en train de prendre le biberon et tout ça. Et poc, elle m'a pris en photo. Pareil pour ma sœur, qui était un petit peu plus âgée, un an de plus. Et on a fait la une de calendrier, on s'est retrouvé dans le journal Paris Match, les années 53. Et voilà, mais bon, ça, si tu veux, j'en ai jamais pris conscience vraiment. Ma mère avait des cartons remplis de photos de nous, de sortes de trucs publicitaires, jusqu'à un certain âge. Et puis, c'est un jour, mais vraiment, j'avais presque 40 ans, je suis retombé là-dessus. Je dis, ah bah oui, c'est vrai, j'étais déjà une vedette tout petit.
Ouais,
bon, après, le milieu du mannequinat, c'est très surfait.
Alors, on va se rapprocher, alors là, du Saint-Dessin, c'est-à-dire l'espace de travail et de dessin, Antoine Guillot. Alors,
puisqu'on est sur la table de travail, on peut attester qu'une bande dessinée de Franck Margerin se fait à la main. On a devant nous des pinceaux plus ou moins fins, toutes sortes de bics, de marqueurs, de cutters, un taille-crayon qui a dû être chiné aussi quelque part, ou à côté celui que vous aviez aux arts appliqués, peut-être. Comment ça commence, une histoire de Margerin? Est-ce que ça commence par une envie de dessin? Est-ce que c'est une accumulation de petites histoires qui ensemble vont en faire une grande? Est-ce que ça s'improvise au fur et à mesure?
Écoute, j'ai pas de recette particulière. Je sais que, en général, avec mon éditeur, qui était donc Dionnet, on dealait un peu le nombre de pages qu'il pouvait me donner. Donc des fois, il voyait que ça marchait bien, il me donnait 8 pages. Alors 8 pages, c'est bien, on peut s'exprimer. Mais après, bon, c'est plus compliqué qu'une histoire de 2 pages. Donc, je cherchais une idée. Alors en fait, j'avais les personnages, j'avais Lucien et ses potes. Et c'était après, un peu comme Martine. Toi, Martine à la plage, Martine à la ferme, Martine... je sais pas où. Et c'était Lucien pareil. Lucien à la plage, à la piscine, à la patinoire. Donc j'ai décliné comme ça tous les endroits où je pouvais envoyer Lucien. Et comme c'est des endroits que j'avais fréquentés parce que tout le monde est allé à la patinoire, à la piscine dans sa jeunesse ou à la plage, j'avais des tas d'histoires, des tas de petits gags, de petits machins. Bon, les histoires n'étaient pas forcément exceptionnelles, mais c'était une succession de petits gags, de petits détails, et puis les gens s'y retrouvaient, et puis moi ça les faisait marrer, moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça, j'ai fonctionné là-dessus pendant longtemps. Et puis après, quand j'ai fait Lulusmac, là, je voulais faire une histoire plus longue, c'était ma première grande histoire. Je voulais que Lucien rencontre l'amour, enfin, parce que tout le monde disait, ouais, il n'y a pas de filles dans tes BD et tout ça.
Il coupe la banane, en plus, parce qu'il fait son service militaire.
Voilà. Alors, en fait, à l'époque, il y avait encore le service militaire, et tous mes potes me disaient, ah, fais une BD avec Lucien qui va au service militaire. Mais je dis, mais moi, je ne l'ai pas fait. Je m'étais fait exempter à l'époque, et du coup, je ne pouvais pas parler d'un truc que je ne connaissais pas. Alors je dis, par contre, je peux le faire revenir du service militaire. Donc, il avait plus de banane, c'était une petite provoque, un peu. Et toi, on n'a jamais vu Tintin sans sa houppette. Hein. Mais voilà, donc Lucien est arrivé sans sa banane. Il a rencontré une fille, et bon, c'est une petite histoire comme ça, qui finalement, avec le recul, c'est parmi les albums qu'on cite toujours. Et genre avec l'histoire de Bouffchidor, le chat, etc. Ça revient souvent, cette histoire de Lulusmac. Alors qu'à l'époque, j'étais vraiment très, très inquiet, parce que je me disais, comment les gens vont percevoir cette histoire longue? Peut-être un peu trop fleur bleue, ils vont peut-être trouver que c'est une nunuche, j'en sais rien. Franchement, quand l'album est sorti, j'en menais pas large. Et puis finalement, ça a été bien perçu. Et du coup, j'ai refait une histoire longue plus tard où Lucien part aux États-Unis avec ses copains, entre autres pour retrouver Suzy. Voilà, mais il la retrouve, elle est casée, elle a des enfants. Donc c'est une autre histoire. Mais enfin voilà, c'était l'occasion de faire 2 grandes histoires. Et finalement, c'est sympa les grandes histoires aussi. On a plus le temps de rentrer dans le truc, de raconter... toutes sortes de choses, que les petites histoires courtes avec une chute à la fin, toi, l'histoire de 2-3 pages, 4 pages, ça j'en ai fait longtemps, mais finalement on développe jamais rien, toi. C'est plutôt la situation, le gag, quoi.
Lucien, c'était dans Métal Hurlant. Quand il revient, c'est dans Fluide Glacial. Momo le Coursier, c'était dans L'Écho des Savanes. Est-ce que c'était important, et c'est toujours important pour vous, d'être d'abord dans un journal? Est-ce que ça vous met un timing à respecter en disant, bon, faut que je m'y mette, faut que je fournisse? Ou c'est aussi, voilà, une manière de participer de ce monde de la presse, quoi, que vous n'avez jamais quitté, même s'il ne reste plus beaucoup de journaux de bande dessinée?
Pour moi, c'était même presque fondamental, parce que c'est vrai que je crois que tous les auteurs de BD, enfin moi en tout cas, sont des paresseux contrariés. C'est qu'en fait, on dessine, on n'a pas l'impression de travailler, mais c'est comme du boulot, mais comme on s'amuse, on a l'impression que c'est les vacances. Seulement, dès qu'on a une date, on dit merde, les vacances, il faut que... il va falloir un petit peu aller accélérer un peu, parce que là, il faut que je trouve... Donc ça, quand même, c'est une carotte, ça motive. On dit, tel jour, il faut que je rende ma BD. Donc ça te fait bosser. Là, ça fait quelques années que j'ai pas de carotte, et du coup, j'ai rien fait. Donc c'est vrai que c'est... Mais en même temps, j'ai pas non plus envie d'être sous pression maintenant. Toi, je vais avoir bientôt 74 ans. C'est un âge où t'as plus envie de toute la journée sur ta planche à dessiner. T'as plus envie de profiter un peu des dernières belles années. Donc j'ai un peu levé le pied sur la BD, mais par contre, je continue beaucoup à dessiner et je vais un peu à l'encontre de mon public. Ça, j'aime bien. Je récolte les fruits que j'ai, des graines que j'ai semées il y a 30 ans, 40 ans, maintenant.
Alors, puisque vous nous avez accueillis avec un magnifique t-shirt, avec une tête de mort à banane de Lucien et deux bielles de moto, je voudrais qu'on se quitte pas sans que vous nous racontiez l'histoire extraordinaire des Elves of Malakoff. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a fait hurler de rire quand je l'ai lu gamin. Chaque fois que je voyais un gang à mobilette dans un patelin, je les appelais les Elves of Trifouilly-les-Oies. Et alors vous, les Elves of Malakoff, ça s'est pas passé si simplement.
Ah, c'est-à-dire qu'en fait, le mot Hells Angel, c'est un nom déposé. C'est-à-dire que là, je devrais même pas le prononcer. Je prends des risques. Mais voilà. Donc, dès qu'on parle de ce club, on a des comptes à leur rendre. Et bon, moi, je savais plus ou moins qu'il fallait pas en parler. Donc, j'avais appelé ça les Hells of Malakoff. Donc, c'était un petit clin d'œil. En plus, j'en connaissais quelques-uns. Donc, je pensais qu'il y avait aucun problème. Mais malgré tout, Hells of Malakoff, ça les a un peu titillés. Donc ils m'ont convoqué, il a fallu que je m'explique, et puis ça s'est relativement bien passé parce que c'était quand même, il avait un peu le sens de l'humour aussi quand même. Et donc, mais il y a eu après moi d'autres dessinateurs qui ont encore dessiné des histoires de bikers et tout ça. Et là, ils ont commencé à être un peu agacés. Donc, ils sont allés voir les Humano en disant, bon, maintenant, faut arrêter de parler de nous, parce que même si on parle pas directement de nous, toute cette image autour des bikers, ça commence à nous fatiguer. Alors, ils ont mis vraiment la pression sur Dionne et Manœuvre, qui était pas trop rassuré, qui a envoyé un courrier à tout le monde en disant, bon, écoutez, prenez, si vous voulez vraiment parler de bikers, parlez pas d'eux, mais parlez, je sais pas, vous inventez n'importe quel nom, les crâneurs de Saint-Ouen, les scorpions de Malakoff. Bon, je reçois la lettre. Je lui dis, ah, bah, tiens, ça, c'est drôle. Je vais faire la BD, la prochaine BD, il y aura les scorpions de Malakoff. Donc, pour leur dire, j'ai reçu la lettre. Je fais cette histoire et quelques jours après la sortie de l'album, je reçois un coup de fil. Allô, Margerin, ouais, c'est Dédé, les scorpions de Malakoff. Je dis, attends, ça c'est une connerie, ça. Puis après, je dis, non, je reconnais pas cette voix. Puis bon, le mec, il a pas l'air trop de rigoler. Je dis, ouais, bon, ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, j'ai vu que tu parlais de nous, là, dans ta dernière BD. Je dis, oui, effectivement, ouais. Bah, on aimerait te rencontrer. Bon, d'accord. Donc, on convient d'un rendez-vous à Malakoff dans un bar. Et en fait, là où j'ai pas percuté, parce que autant les autres étaient un peu menaçants, autant eux, ils étaient super flattés que, en fait, je parle d'eux, toi. Donc, ils avaient envie de me rencontrer pour me dire, waouh, ouais, trop cool, trop fort, toi. Et moi, dans ma tête, c'était encore le genre, faut pas parler de nous parce que voilà, on est un gang et tout. Bon. Alors, les mecs, ils arrivent. Alors, tout de suite, avant qu'ils aient le temps de dire quoi que ce soit, je dis, vous allez rire. Et je leur montre la lettre. Et en fait, ils ont pas du tout rigolé parce que ça sous-entendait que leur nom, c'est un nom complètement ringard. Crâneur de Saint-Ouen, scorpion de Malakoff. Alors, dit, ben quoi, tu nous connais pas? Alors là, j'ai commencé à avoir un petit doute sur ma stratégie. J'ai dit, attends. Il y avait une bande à une époque qui traînait à tel endroit et tout, ce qui était vrai d'ailleurs. C'était peut-être vous? Mais bien sûr que c'était nous. Ah bah oui, si, je vous connaissais, mais je savais pas que c'était les scorpions. Enfin bref, j'ai rattrapé le coup, j'ai payé des tournées à tout le monde, tu vois. Et tout s'est bien passé, on est même devenus copains. Après, il m'appelait, ouais, on se fait une sortie et tout. Bon. Je prétendais toujours que j'avais du boulot parce que je pouvais pas passer ma journée à sortir avec les scorpions. Mais en tout cas, ils étaient super sympas. Et j'ai regretté après de leur avoir montré la lettre. Ça leur a fait de la peine, j'ai bien vu. Alors je leur avais dit, oui, c'est ça surtout qui m'amusait. Je leur ai dit, mais allez aux Humano, vous tapez du poing sur la table et dites, on veut du fric, tu vois. Parce que c'est ce qu'avaient fait les autres. Et ils ont pas osé. Alors ils disent, ouais, ben, on a appelé plusieurs fois, Dionne était jamais là. J'ai dit, mais faut pas appeler, faut débarquer. Bon, ils ont laissé tomber, ils étaient trop cool. Ben, j'étais déçu.
Merci. Bavard, hein. Ah ben, c'est une qualité hautement radiophonique.
Ah,
merci.
C'est vrai.
Merci, Franck Margerin, ben, de nous avoir reçus. Merci.
Merci à vous.
Et à bientôt. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. New sensations, spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shove away. Voilà, c'était la visite de Mauvais Genre chez Franck Marjorin, qu'on remercie très chaleureusement de sa générosité, de sa disponibilité. Et puis, c'est tout cela était à l'occasion de la sortie Mediapop édition de Ma vie avec et sans Lucien. Entretien avec Samuel Guillerand, 50 ans de truculentes années de BD et de presse. Et puis, je signale également que Samuel Guillerand est l'auteur de L'essence des chocs, deux décennies sous le sceau de la vilainie et du chaos. Et le livre Tant que c'est encore possible, un livre d'entretien avec le journaliste et éditeur Olivier Drago, puis qui prépare un album sous le nom de Unwell, le désordre. Et la nuit, Franck Marjorin, c'est aux éditions Mediapop. On passe maintenant aux chroniques dans Mauvais Genre. Sixtine Audebert, vous avez la parole.
Oui, et bien je vais vous parler de One Way or Another. Une novella rock empruntant son titre au célèbre morceau de Blondie et qui est aussi donc le premier roman de Stéphane Signoret chez Melmac 4, un petit éditeur associatif qui prend également soin du polar, de la SF et du fantastique et qui gagne donc à être connu de nos auditeurs. Mais qui donc est Stéphane Signoret? Eh bien, c'est le cofondateur en 2006 du fameux disquaire et qui a démarré avant comme un label il y a une trentaine d'années, qui compte aujourd'hui plus d'une trentaine de références, le Lollipop Music Store dans le 6e arrondissement de Marseille, qu'on a pu apercevoir pour nos auditeurs qui sont plus cinéphiles que sudistes dans un film qui est sorti il y a un an, que vous aviez présenté dans votre émission Antoine Guillot, Photogénico, du critique Benoît Sabatier et de Marcia Romano. Alors Stéphane Signoret est donc disquaire, il est aussi activiste puis c'est avec son label, et il est aussi musicien, guitariste pour compléter la triade, jadis dans le combo punk du cru les Neurotic Swingers, dont nous écoutons un morceau et que les auditeurs fidèles se rappelleront peut-être qu'il m'était déjà arrivé de diffuser un extrait lors d'une précédente chronique du roman de Pascal Escobar, qui était un membre également de ce groupe, Mieux bâtard que jamais. Et donc désormais, les Neurotic Swingers se sont séparés, mais Stéphane Signoret continue à jouer dans Pleasures, hein, qui est un peu plus pop. Et il ajoute désormais donc une nouvelle corde à son arc, puisqu'il se lance dans l'écriture d'Obédience, Je vous le donne en mille, rock, dont ce court texte compile toutes les caractéristiques savoureuses. Alors, quelles sont-elles? Ingrédient numéro un, il se nourrit évidemment du vécu de son auditeur, de son auteur, excusez-moi, une amorce nostalgique du rocker dans sa quarantaine, embourgeoisé et atteint de la maladie de la famille, hein, vous savez, les enfants sexuellement transmissibles, ou autre élément biographique, la mention d'une tournée américaine avortée de son groupe des Neurotic Swingers à l'époque, qui nous raconte en préface et en postface. Et deuxième élément évidemment constitutif de cette écriture rock, l'érudition, hein, il n'y a là que consulter la bibliographie sur les riches heures de la scène new-yorkaise qui figure dans le livre, qui est en elle-même déjà une bibliographie culte. L'auteur ne boude pas son plaisir. Au contraire, il l'assume carrément, hein, ses fantasmes dans un scénario qui est effectivement un peu délirant et plaisant à lire, à travers une sorte d'alter ego qui dort au Chelsea Hotel et qui jamme avec Richard Dell et Jerry Nolan au CBGB. Mais je ne vous en dis pas plus sur la façon de lier tous ces éléments. Je dirais simplement que c'est une petite friandise pour les fans d'un premier degré très jouissif et qui est ultra citationnel, et que cette lecture vraiment sympathique est émaillée aussi de photos tirées d'archives personnelles, de clichés officiels. Et puis il y a ce procédé évidemment très classique mais toujours très très appréciable, des titres qui rendent hommage à des morceaux et une playlist qui fonctionne par chapitre avec du Gun Club, des New York Dolls, du Suicide, des Dead Boys, Willie Devil, des Dogs, etc., etc. Et c'est donc One Way or Another de Stéphane Signoret chez Melmac 4.
À retrouver sur la page du site de Mauvais Genre. It stands out on a highway like a creature from another time. Antoine Guillot, Mais la... où nous emmenez-vous?
Si vous écoutez bien Jill Scott Heron, vous comprendrez qu'on est à Détroit.
Mais ça n'existe plus, Détroit.
Mais Détroit existe toujours, serait-ce que grâce à ce livre phénoménal, grandiose.
Oui, c'est vrai que c'est très impressionnant.
Chef-d'œuvre de cette fin d'année de bande dessinée, c'est Détroit Roma de Hélène Husdin et Bonnie. Hélène Husdin, c'est déjà quelqu'un qui nous avait beaucoup impressionné il y a 3 ans avec son livre René au bois dormant, qui nous avions donné le grand prix de la critique ACBD et qui confirme à quel point son talent avec ce nouveau livre coécrit et co-dessiné avec Bonnie. Bonnie, c'est un artiste pluridisciplinaire qui est aussi bien scénariste, compositeur, multi-instrumentiste et dessinateur. On le découvre ici. Et c'est le fils d'Hélène Husdin. Alors, qu'est-ce que c'est que Détroit Roma? On est en 2015, au plus fort de la crise à Détroit. Ça commence de manière déjà assez psychédélique dans une technique qui n'est pas sans évoquer Émile Ferris dans son « Tout ce que j'aime, c'est les monstres », c'est-à-dire c'est dessiné au stylo à billes 4 couleurs, et une tigresse dans des zones désolées, celle du Détroit en pleine déréliction, va recueillir un bébé noir, un bébé blanc, et les allaiter au sein d'un pneu géant. À partir de là, on va avoir l'histoire de ces deux jeunes filles devenues grandes, qui ont une relation qu'on ne comprend pas trop, qui va s'éclaircir peu à peu au fil du livre, dans leurs deux systèmes de couleurs. On a un système, après être parti de Détroit, parce que Détroit Roma, on va aller de Détroit à Rome, mais pas la Rome italienne, Roma Georgia, comme on dirait Paris, Texas, pour faire un chemin à rebours qui est à la fois celui de l'immigration des Européens et des esclaves noirs qui s'étaient enfuis par l'Underground Railroad pour fuir les plantations et aller dans le nord, là où ils étaient libres. On va faire le chemin dans le sens inverse et dans des teintes beaucoup plus en noir et blanc, raconter leur passé dans un Détroit habité par des images de cinéma. C'est très stupéfiant parce que la mère d'une jeune fille riche, la blonde, se prend pour Norma Desmond dans Sunset Boulevard. Donc elle passe son temps à rêver les rôles qu'elle n'a jamais eus. Norma Desmond, elle revivait ses rôles passés. Elle va se projeter dans une histoire de cinéma qui, d'un coup, nous donne des images plein cadre qui sont aussi une façon de nous dire que, pour peu que vous aimiez le cinéma informe votre manière de comprendre le monde. C'est-à-dire que dès que vous avez une émotion, ça va vous renvoyer à une scène d'un film en particulier. Donc, utiliser ces images permet déjà de raconter des états émotionnels. Mais ce qui est le plus fascinant encore dans cette bande dessinée, et là, on est quasiment dans la psychogéographie à la Ian Sinclair, c'est que ce livre devient Détroit lui-même. C'est-à-dire qu'on a une façon de circuler entre les images de façon extrêmement inventive, qui est comme un Détroit caché, secret, dans lequel circuleraient ces personnages. Donc c'est, je dirais que avec ce livre, les auteurs font à Détroit ce que Émile Ferris faisait à Chicago, et plus encore ce que David Lynch faisait à Los Angeles, en faisant émerger des histoires cachées, sordides, auxquelles il faut survivre. Et notamment, il faut savoir survivre aux mères pathogènes, délétères et monstrueuses, mais terriblement humaine. C'est Détroit Roma, extraordinaire. Si j'ai encore une seconde, du côté ville hallucinée avec des couleurs extraordinaires, c'est le nouveau livre de Blex Bollex, Le temps du capitaine Brett. Blex Bollex toujours fait des livres pour enfants, mais extrêmement inquiétants. Ici, c'est un jeune garçon qui ressemble un peu au Petit Prince, qui est envoyé par sa famille dans une ville chez un oncle un peu étrange, mais surtout dans les canaux de cette ville, il va rencontrer un pirate à tête de mort. Je vous lis juste un petit peu un extrait. Un coup brutal m'envoya valser dans les airs. J'atterris au fond du bateau, accueilli par des éclats de rire méchants. Je me retournai pour apercevoir celui qui m'avait joué ce tour pendable. Alors je le vis pour la première fois dans toute son horreur. Une trogne répugnante, pareille à une pomme de terre pourrie et affublée d'un sourire ciselé au couteau. Il charriait des effluves de charniers, susurrait des rumeurs de saccage, laissait sourdre une violence inassouvie et sans doute pire encore.
Merci Antoine, merci à toutes et à tous d'avoir écouté Mauvais Genre. Je rappelle les sujets de ce soir. Franck Margerin, livre d'entretien avec Samuel Guigrand chez Mediapop. One Way or Another aux éditions Melmac. Et Détroit Roma, c'est aux éditions Sarbacane.
Le temps du capitaine Brett aux éditions La Partie.
Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Paul Réminetta, Diawara, Claire Poissignon, Sixtine Audebert, Claire Martin Dugard, Antoine Yo et François Angelier vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine autour d'Anaïs Nin et Proust avec Julien Lesquier et Xavier Mauméjean.